Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Beaucoup de bonnes communions fraternelles. On a vu des sujets sur nos relations ensemble qui sont bénéfiques, qui sont encourageants. Et on continue cette belle fin de semaine. Je vais prendre la première image. Excellent. Donc, on continue cette belle fin de semaine avec le sujet de l'unité. Hier, on a vu que on a commencé par voir que des fois, il y a une tension entre la mission. La mission, c'est annoncer l'Évangile, faire grandir l'Église, faire l'œuvre de Dieu. Et parfois, on se dit, si on passe trop de temps ensemble à s'occuper de nous, ben on ne fait pas la mission. Et il semblait que il y a comme une tension, c'est un ou l'autre. Mais on a vu que quand on est en train de prendre soin des uns des autres, on fait la mission. Et un des versets qu'on avait vu, c'était Jean 13, versets 34 à 35, 33, 34, qui disait que « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que les gens vont voir que vous êtes mes disciples. » Donc, le fait de s'aimer puis d'avoir des relations significatives où on se fait du bien, on s'encourage, on démontre l'amour de Dieu, que c'était tout à l'avantage de la mission. Donc, les relations, c'est la mission, puis la mission, c'est les relations. On fait les deux en même temps, ça s'entrecroise et un bénéficie à l'autre. On avait vu également plusieurs passages qui démontraient c'est quoi nos valeurs. Et on voulait voir que si on voulait vivre des relations bénies, on avait besoin d'identifier nos valeurs. C'est quoi qu'on croit? C'est quoi qui est important? C'est quoi qu'on veut défendre? Et on avait vu beaucoup de choses qui étaient nos valeurs basées sur le témoignage biblique. Et l'une de ces valeurs-là qu'on va voir ce matin avec un passage, on a beaucoup partagé au niveau relationnel, au niveau humain, et c'était tout biblique, c'était tout dans l'amour de Dieu, mais on n'était pas en train d'examiner des passages bibliques en tant que tels hier. On les a survolés. Mais ce matin, on va voir un passage. C'est un des passages qu'on avait vu hier, qu'on avait juste nommé. C'est Éphésiens 4, 1 à 3. Donc, on va prendre le temps de lire ce passage-là. Passage tellement important. Quand on parle d'église locale, si on a une dizaine de passages là, qu'on dit, ça nous dit comment vivre, ça nous dit comment accomplir le but que Jésus a pour nous dans l'église locale, c'en est un. Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité ou avec amour dans certaines versions, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et si on se concentre sur l'unité, l'unité va être au cœur de nos relations en tant que frères et sœurs. J'ai tellement aimé l'exemple de Ben sur l'unité. Tant que les arbres étaient là, il y aurait pu avoir des gros vents, un s'appuyait sur l'autre au niveau du sol, la racine de un était entrecroisée avec la racine de l'autre, ça se tenait, ça allait très bien. Qu'est-ce qui est arrivé quand il y a eu des trous? Ils ont clairsemé la forêt. Oups! Celui qui était encouragé, la Bible dit qu'on est édifié les uns par les autres, bien, tant qu'on était soutenu, encouragé, édifié, qu'on servait du modèle de l'autre, il m'encourage, lui, il persévère, puis moi, je vais prendre son exemple. tant qu'on est là les uns avec les autres, on a cet impact, cette édification. On s'enracine en Christ ensemble. Tant qu'on est là, il y a de l'espoir. Tant qu'on demeure unis, même si ce n'est pas parfait, tant qu'on demeure dans l'unité de Jésus, il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui peut être fait. Pour connaître la place que doit avoir un enseignement, pour donner, dire ça, c'est-tu une de nos valeurs? Est-ce que ça, c'est dans nos priorités? On a besoin de voir l'importance que Jésus lui donne. Et la parole de Dieu, dans différents passages, nous dit que Jésus a donné sa vie afin de rassembler les enfants de Dieu dispersés. Hein, il parlait dans Jean 10 des bergeries, puis il dit il y a une autre bergerie. Il parlait de l'Église qui allait naître, puis il dit cette bergerie-là, il dit je vais rassembler tous les enfants de Dieu. Il voulait qu'ils soient tous dans un même corps. Jésus, dans la prière sacerdotale, la prière qu'il adressait à son Père, là, quelques heures avant d'être arrêté, puis que les événements qui vont mener à la croix débutent. Dans sa prière, Jésus priait avec intensité. Il disait, « Je te prie afin qu'ils soient un comme nous. » C'était la prière de Jésus pour protéger puis garder dans l'unité ceux que le Père lui avait donnés. Versets 20 à 23, il dit, « Afin qu'ils soient parfaitement un. » Jésus mentionne à plusieurs reprises son désir dans sa prière. Sa prière, c'est, Jésus dit, c'est que mes enfants, pour qui je vais donner ma vie, soient parfaitement unis. Qu'ils soient un comme moi et le Père, nous sommes un. Wow! Y a-tu plus uni que ça? Dans la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont dans une communion, qui sont dans une entente parfaite. Il n'y a pas de rivalité. Le Fils manifeste le Père. Il manifeste la personne de Dieu. Il est celui qui incarne Dieu vivant dans un corps. Et il est celui qui accepte de souffrir. Le Père donne son Fils. Le Fils donne volontairement sa vie. Il y a une unité, il y a une entente. Et Jésus priait et dit, je veux, quand je pense, moi je vais monter au ciel, mais je te prie pour l'Église qui va rester là, afin qu'elle soit unie comme moi et toi, le Père, nous sommes unis. Éphésiens est une épître très, très, très importante. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner, sinon on va... Et Éphésiens a 6 chapitres. Et les 3 premiers chapitres, c'est vraiment de beaucoup de doctrine, une doctrine pratique, une doctrine riche qui nous dit c'est quoi l'élection, comment on a été prédestiné, comment fonctionne le salut, c'est quoi la révélation, le mystère, toutes ces choses-là sont enseignées, tellement riches, tellement bénissants. Mais là, il y a une coupure. 4, 5, 6, c'est la pratique. Voici, je vous exhorte donc. Le « donc » fait référence aux 3 derniers chapitres. À cause de toutes ces grandes vérités, voici la première chose que je veux vous dire. Je vous exhorte donc, sur la base de toutes ces grandes vérités, voici ce que vous devez faire. Première chose qu'on veut voir dans le « donc », le lien, à cause qu'on a tout reçu ces choses-là en Jésus, voici, on est appelé à avoir une vocation, à avoir un appel. Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressé. Hein? Puis le mot vocation ou appel au niveau de la langue originale, c'est le même. Et ça revient 23 fois dans le Nouveau Testament. Paul lui-même adresse beaucoup ce mot-là, de dire l'appel que j'ai reçu de Dieu, la vocation qu'il m'a donnée. Et dans Éphésiens, ça revient 3 fois. Juste un petit peu plus loin, au verset 4, ça parle « Vous avez été appelés par votre espérance, par votre vocation. » Encore, c'est le terme « appel », c'est le terme « vocation ». Peut-être que vous dites « Écoute, moi, je suis pas pasteur, j'ai pas été appelé dans l'œuvre d'une façon, j'ai pas une vocation, je suis un membre de l'Église. » Chacun d'entre nous, on a reçu un appel, on a une vocation, on a une obligation qui est là. Paul ne demandait pas, dans l'appel des chrétiens dans l'Église, il ne leur demandait pas d'aller en prison. Il ne nous demande pas ça non plus, mais Paul demandait aux chrétiens d'Éphèse, comme il le demande à nous, il demande à quoi? De vivre dans l'unité. Il dit, tu n'as pas l'appel peut-être à aller en prison, à subir la persécution, à recevoir, à être lapidé, mais il y a une chose que chaque chrétien est appelé, puis que c'est une tâche, une obligation, un engagement, c'est à vivre dans l'unité. Dans l'unité, dans l'amour, pour jouer un rôle, pour édifier, pour prendre soin de l'Église. Cette obligation-là, cet appel, vient de qui nous sommes et de ce que nous avons reçu. Paul ne se prend pas directement comme modèle ici, mais un peu plus loin, il nous dit comment on doit marcher d'une manière digne de la vocation. Si on va au chapitre 5, verset 1, vous l'avez ici, ça dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même. » Donc, cette vocation-là à marcher dans l'amour, à marcher dans l'unité, tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on est appelé à devenir, c'est une réponse biblique de notre part. Donc, le fait qu'on a cette vocation-là, c'est parce qu'on vient de Jésus, on a tout reçu de Jésus, et on est appelé comme des disciples, comme des chrétiens, à marcher dans les pas de Jésus, à incarner ses valeurs, à vivre selon ses priorités. On a tous reçu cet appel. Contribuer à marcher d'une manière digne de Dieu qui va procurer l'unité dans l'Église. Vous pouvez penser de dire, écoute, moi, mes moyens sont limités, ma santé ne me permet pas de donner beaucoup d'efforts, j'aimerais en faire plus dans l'Église. Au niveau de famille, au niveau de situation, j'essaie d'être là le plus souvent. J'aimerais amener une plus grande contribution à l'Église, mais quelle est la contribution que tu peux amener à l'Église? Procurer la paix. Les relations que tu vas entretenir avec les autres personnes, les choses que tu vas dire, les choses que tu vas décider de ne pas dire, l'attitude que tu vas avoir, tout ça va contribuer à l'appel. Tout ça va contribuer à ta vocation, et notre vocation, c'est de contribuer à l'unité. On veut agir comme Jésus agirait. On veut agir à cause de Jésus. On veut agir pour Jésus, parce que Jésus, l'unité, son corps, c'est précieux. Quand il voit des enfants qui vivent son amour, des enfants qui ont un témoignage dans la communauté à cause de la façon qu'on prend soin des uns des autres, Jésus, il dit, c'est pour ça que j'ai donné ma vie pour sauver les gens et afin qu'ils puissent vivre ces relations bienfaisantes. L'unité. Les relations, c'est la mission. Et la mission, c'est les relations. Quand on perd l'unité, on perd toute crédibilité et on perd toute force et on se dit, hey, qu'est-ce que ça donne d'essayer de sauver les gens avec l'Évangile puis d'en faire des disciples si en venant dans notre Église, hey, on n'est même pas prêt à les recevoir. Pour arriver à cette unité, le passage nous parle de 5 attitudes. Je ne sais pas si vous les avez vues. Digne de la vocation, en toute humilité, un premier, et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, tout ça dans le contexte de l'unité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Humilité, douceur, patience, amour et paix. On parlait de nos valeurs, de définir nos valeurs pour contribuer à l'unité qui est une valeur principale. Ici, on a les attitudes, les dispositions de cœur qui vont conduire à l'unité puis à l'édification de l'Église. Humilité. Hein, ça veut dire d'avoir une idée basse de soi. Est-ce qu'on croit que, parce qu'on croit une chose, que c'est ma croyance, c'est mes choix, qu'on doit l'imposer à tout le monde? Est-ce que je crois que mon idée est plus importante que les autres? Quand je regarde les autres, est-ce qu'on croit qu'on l'a plus l'affaire dans le Seigneur, qu'on aime plus Jésus, qu'on est plus engagé et on regarde les autres un peu en les rabaissant ou encore en disant, « Hey, il devrait en faire plus. » Jésus a dit que celui qui se croit être le premier, qu'à ses yeux le dernier, celui qui va s'élever va être abaissé. Jésus dit qu'il fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux, parce que dans la personne humble, dans un de ses enfants humbles, qui sent sa suffisance de dire, « Seigneur, je veux t'aimer, je veux te suivre, mais à tout bout de champ, je suis frappé face à mon cœur, à mon insuffisance. Seigneur, je ne suis pas capable d'être le chrétien que tu veux que je sois, mais prends ma vie, Seigneur, viens combler mes vides. » Qu'est-ce que Jésus fait avec une personne comme ça? Il la bénit. Il la renforce. Il résiste aux orgueilleux, à celui qui pense qu'il a l'affaire. Jésus est venu afin que ceux qui voient, que ceux qui connaissent, que ceux qui l'ont l'affaire, deviennent aveugles. Et quand on est venu à Jésus, on a fait ce pas d'humilité-là, d'abaissement, de dire, « Seigneur, ma vie est perdue, mon éternité est perdue sans toi, et je veux que tu deviennes mon maître, mon Seigneur, et je veux te suivre. J'ai besoin de toi, Jésus. » Humilité. Douceur. Quelqu'un qui est fort, il va être dur envers les gens. Il va imposer des choses. L'humilité conduit à la douceur. On est les représentants, on est les frères du roi des rois de Jésus. Jésus est empreint de force, de puissance. Il va régner pour l'éternité. Est-ce que nous, on est appelés à agir comme ça? Hautain envers les gens, en dire, nous, on a le vrai royaume, le royaume qui va durer toujours. Non. Jésus est doux et humble de cœur. Jésus est amour. Jésus est patient. Jésus est le prince de la paix. Jésus est celui qui procure la paix. Jésus a incarné, malgré sa grandeur, ses attitudes, ses dispositions de cœur. Et nous, pour créer l'unité, on a besoin de les incarner. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres passages, hein, de Jacques 3 sur la sagesse de Dieu. Ils sont tous répétés. On est appelé à être modéré, conciliant, pacifique. Le passage nous parle d'une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Le passage nous parle du fruit de la justice qui est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Quand on vit des tensions, quand on a de l'insatisfaction, puis on dit « là, je me sens plus bien dans l'Église, là, ça ne marche plus mon affaire, j'ai plus le goût d'y aller », on a besoin de revenir à parole. Le Saint-Esprit a besoin de nous rappeler c'est quoi les dispositions de cœur qui devraient m'habiter? Humilité, douceur, patience, amour, paix. Et là, le Saint-Esprit peut reprendre le contrôle de notre cœur, de dire, « Seigneur, pardonne-moi, calme-moi. » Mets en moi les sentiments qui étaient en toi quand tu as tout abandonné quand tu es allé à la croix. Disposition de cœur, mais il n'y a pas juste le cœur, il y a aussi les actions. Deux actions qui sont données. Comment on fait ça d'avoir de créer l'unité, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix? Vous efforçant, vous supportant les uns les autres, et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Ici, là, ça sent la sueur. Il y a de l'effort. T'es là, t'as une lutte intérieure, puis on peut voir la fumée qui monte, là, on peut sentir, ça sent le brûler, là, ça chauffe, il y a de la friction, il y a du frottement, là, il y a le tire, le pneu qui a freiné. Ah, ça sent l'esprit d'équipe, ça sent que, il s'est passé quelque chose dans cette salle de réunion-là. Là. On rentre, puis... Oui, c'est ça, là, avec la force. On est appelé à agir, on est appelé à lutter, et ce ne sera pas toujours facile. Hier, dans la formation, on voyait qu'au niveau de nos valeurs, qu'on devait souffrir pour nos valeurs et que des fois, on devait se lever. Quand on voit des actions qui sont vraiment destructrices et qui vont faire du mal à nos frères et sœurs, c'est le temps de se lever puis de prendre position. Il y a quelqu'un qui fait de l'abus ou qui met une pression imbue sur les gens, on va adresser ces situations-là parce qu'on veut que les gens soient à l'aise puis qu'ils vivent l'amour. Donc, des fois, il faut pas endurer. Il faut pas endurer ce qui est inacceptable. Mais ici, ça parle de supporter, de conserver l'unité de l'esprit. Donc là, il y a un effort qui est fait et il y a des situations où c'est le temps d'accepter. La plupart des membres ont pris telle position, puis c'est pas ma position, puis ils sont tous d'accord, puis moi je l'ai dit que j'étais pas d'accord, puis ils ont pas changé d'idée. Ah ben là c'est le temps d'accepter. Tu as une lutte intérieure, tu as un combat. Là, c'est le temps de supporter, c'est le temps de t'efforcer. Tes frères, tes sœurs vont te décevoir constamment. Tu vas vivre la frustration, tu vas vivre la déception. Il va y avoir un combat dans ton cœur. Tu as des attentes, tu as des désirs et ça ne se passe pas. Qu'est-ce que tu fais avec tes déceptions, là, c'est le temps. Supporter, endurer, faire un effort, contrôler ton cœur, te parler à toi-même, te dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je cause du trouble? Non, c'est dans ce temps-là que Dieu m'appelle à supporter, à endurer, à accepter des choses parce que il n'y a rien de mal, il n'y a pas de péché qui se fait, c'est juste moi avec mon cœur qui est tortueux, mon cœur qui veut arriver à ses fins, qui n'accepte pas. La Bible nous dit que parfois on va se mordre, on va s'attaquer les uns les autres et ce n'est pas la solution. Il y a un temps pour se retenir, il y a un temps pour accepter, il y a un temps pour dire, écoute, je ne veux pas, pour mon point de vue personnel, causer du trouble à l'Église. C'est le temps, là, Richard, de supporter. C'est le temps d'accepter. On a besoin de se parler. On a besoin de demander au Seigneur de venir nous aider à se calmer, à se retenir. Conserver l'unité de l'esprit, ça a un grand prix, ça a une grande valeur, ça fait partie de notre appel. Puis parce que c'est précieux pour Jésus, c'est précieux pour nous, puis parce que c'est précieux pour nous, bien, on va être là comme un agent protecteur. Dans les trois versets, tout pousse vers une action, une protection de ce qui est au cœur des préoccupations de Jésus, de Paul et de nous. L'unité de l'Esprit. On n'est pas là pour détruire l'Église, on est là pour la protéger. On n'est pas pour la division, on est pour l'unification. On n'est pas pour les tensions, on est là pour la paix. Et nos attitudes de cœur vont protéger cette unité-là. Cette unité est grande, précieuse. On a besoin de se le dire, de l'avoir comme vérité dans le cœur avant que les divisions arrivent. Parce que quand les divisions arrivent, qu'est-ce qui se passe? Notre chair prend le dessus. On ne réfléchit plus comme il faut. Moi, je me souviens d'un frère qui avait causé à Shawinigan, là, il y a une vingtaine d'années, une dispute, une division qui avait duré plusieurs années, qui avait amené le départ d'un pasteur, la perte du tiers des gens. Et ce frère-là, une fois que tout a été fini, il me disait en pleine face, il disait, Richard, si c'était à refaire, demain matin, je referais exactement la même chose. Même pas une attitude, écoute, je voulais défendre des bons principes, mais je regrette que tant de gens aient été blessés. Donc, on a besoin de cette humilité. On a besoin de savoir que l'unité de l'Église est précieuse. On a besoin que ce soit une valeur qui fait que quand on commence à se battre, à argumenter, qu'on soit capable de se replier puis de dire, hey, est-ce que ça en vaut la peine? Qu'est-ce que je suis en train de sacrifier? Jésus l'a créé, on n'a pas à la créer, l'unité, mais on peut contribuer à la maintenir. Et le souci de Dieu, c'est l'unité de la foi, d'être ensemble. Éphésiens en parle beaucoup, si on va un petit peu plus loin, ils ne sont pas sur les versets 4-13 dans Éphésiens. Ça nous parle jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Wow! C'est pas juste de connaître Jésus puis de vivre ça individuellement. L'unité de la foi. 4-16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage, tire son accroissement et s'édifie lui-même dans l'amour. 4-29 nous parle des bonnes paroles qui servent à l'édification. L'unité est présente partout dans le livre d'Éphésiens, dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 1:10 dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. » On a les versets ici que vous avez à l'écran, Philippiens 2:2, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » 4:2, « J'exhorte Évodie et Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Hein? » Les deux étaient des évangélistes qui annonçaient l'Évangile. Puis là, ils n'étaient plus en train d'annoncer l'Évangile parce que dans l'Église, il y avait un conflit entre les deux. Et Paul dit, aide-les, aide-les, toi, fidèle collègue, aide-les à recréer cette unité. Colossiens 2:2, que vous n'avez pas. Trois petits mots. Paul désirait qu'ils soient unis dans l'amour. Unis dans l'amour, c'est la préoccupation. Quelques pensées par rapport à l'unité. Notre unité dans l'Église n'est pas l'uniformité. Hein? S'il y avait des gens qui ont la fibre syndicale revendicatrice, disent « Ah oh, oui, hein, les pasteurs, ils nous prêchent l'unité parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle. » Ils ne veulent pas avoir des points de vue différents. Hein? Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc, l'unité dans l'Église, ça ne veut pas dire l'uniformité. On n'est pas tous des copier-coller qu'il faut qu'on pense toutes la même chose. Dans l'Église biblique, dans l'Église mature, la diversité est une bénédiction. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu agit dans chacune des personnes. Et quand on va avoir des idées différentes, bien, ça va être une bénédiction. Donc, on n'a pas à avoir peur de l'unité, parce que la vraie bonne unité ne dit pas aux gens qui pensent différents de nous, taisez-vous parce que vous nuisez au projet. Je me souviendrai toujours dans une réunion du conseil à Shawinigan. Moi, j'avais vraiment à cœur une chose, un projet. Ça faisait 6 mois, là, à chaque réunion, je leur en parlais un peu. Puis là, c'était l'assemblée annuelle arrivait, puis c'était le temps du vote. Puis là, mais les relations étaient excellentes, l'atmosphère était bonne. Et là, ils ont tous voté pour le projet. On était 8 hommes au conseil. Là, je dis, je trouve ça drôle que vous votiez tous oui, parce que dans vos commentaires, vous aviez des réticences. Bien, ils ont dit, Richard, on n'y croit pas trop, mais on veut t'appuyer. Là, je leur ai dit, hey, mes frères, j'apprécie beaucoup, beaucoup votre appui, mais si vous n'y croyez pas, ne votez pas pour. Moi, je ne veux pas y aller si vous ne croyez pas à ce projet-là, parce qu'on veut être, on veut avoir la vraie unité. Et on n'a pas présenté le projet, et un an plus tard, on l'a présenté. Et là, tout le monde disait, Richard, tu as bien fait de ne pas accepter notre vote l'année passée, parce que maintenant, on est convaincu. L'unité n'est pas l'uniformité. C'est pas qu'on pense exactement la même chose. Ne pas être du même avis, c'est une bénédiction. Hein, Marie-Ève a dit qu'il est revenu à la maison, Gilles en disant, « Hey, je devais plus écouter ma femme. » Que votre femme, que votre conjoint ne soit pas toujours d'accord avec toi, c'est une bénédiction. Parce que s'il y en a un qui veut s'en aller dans le champ, prendre une mauvaise décision, qu'il y en ait un autre qui dit, « Hey, attends là. » Que nos enfants ne soient pas toujours d'accord avec nous, que nos ados nous disent, « Ça n'a pas de bon sens ton affaire, papa. Je ne veux pas faire ça, voyons donc. » Parfois, là, on au lieu de dire, « Hey, il ne m'écoute pas, c'est moi le père, c'est moi l'autorité. » Parfois, OK, qu'est-ce qui te dérange dans ça? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? L'unité n'est pas l'uniformité. Et la diversité, c'est une bénédiction. On reste ensemble, même si on n'est pas d'accord. Hein, on entend souvent, on s'entend sur le fait que c'est correct de ne pas être d'accord. On est d'accord là-dessus au moins. Ça, c'est la vraie unité biblique. Un des obstacles qu'on ne doit pas négliger parce que c'est obscur, c'est pas visible, c'est l'adversaire de l'Église, l'adversaire de Jésus, Satan. Hein? Dans 2 Corinthiens 2:11, ça dit « Nous n'ignorons pas ses desseins ». Et dans le contexte, Paul encourage les frères à se pardonner mutuellement pour ne pas laisser l'avantage à l'adversaire. Le but de Satan, de toute éternité, depuis le début de sa création avec les anges, c'est de s'opposer à l'œuvre de Dieu, de s'opposer à ce qui est précieux pour Dieu. Et l'Église est le bijou et le projet le plus grand de toute l'histoire de l'humanité. L'Église figure en tête de liste. Et Jésus, il travaille à créer cette unité spirituelle pour constamment présenter cette Église à son Père, de dire, oh, regarde, c'est à la gloire de toi, mon Père, c'est à la gloire de l'Évangile. Nos enfants ont reçu notre amour, puis ils sont en train de le vivre. Puis Satan, lui, veut dire, non, oh, regarde. Regarde comme c'est pas beau. L'Église est la gloire de Christ. La parole nous dit que par l'Église, les anges dans le ciel voient la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est littéralement un verset. Dans Éphésiens, ça dit que Jésus, il désire présenter l'Église, cette épouse, comme une épouse sainte et irréprochable. Et Satan, lui, tout ce qu'il veut faire, c'est entacher, ternir l'image de l'Église. Donc, on a besoin, parfois, quand on semble engagé dans des combats, de dire, écoute, je suis en train de servir qui, là? Est-ce que je suis en train de promouvoir les valeurs et l'Église de Jésus ou j'embarque dans le jeu de l'adversaire? Un autre obstacle à l'unité que je dirais qui est plus grand que Satan, hein, je viens de le mentionner, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est parfois l'instrument de la division? Est-ce qu'on brise l'unité spirituelle qui est si précieuse par notre chair, par notre orgueil? Par notre volonté propre, en faisant passer nos intérêts, nos églises, nos idées, en cherchant à se mettre en valeur, en voulant recevoir quelque chose, une approbation, plutôt que d'être là pour donner, plutôt que d'être là pour encourager. Parfois, ce n'est pas notre idée, puis on n'est pas, ça ne nous enflamme pas, ça ne nous dit rien, tel ministère, mais on voit notre frère, notre sœur qui l'a à cœur, qui voit, puis d'aller le voir, de dire, « Wow, je suis tellement content de voir comment tu sers le Seigneur dans ce domaine-là. Moi, ça m'encourage, puis je veux t'appuyer dans ça. » Contribuer à l'unité. La parole de Dieu nous parle des mauvaises actions qui divisent l'Église. Un zèle amer, un esprit de dispute, hein, là où il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Galates qui nous dit que si on se mord et on se dévore les uns les autres, on va être détruit. On ne veut pas détruire l'Église, on veut l'édifier, on veut la bâtir. Ça nous parle des œuvres de la chair. Hein, les œuvres de la chair, ça parle beaucoup de division, ça touche le sujet de l'unité. Et les termes qui sont là dans Galates 5, ça parle de rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division et même de secte. Et secte, ce n'est pas les témoins de Jéhovah, c'est les petits groupes qui sont à part au sein même de l'Église locale. On a besoin de s'efforcer. On a besoin de supporter. Parfois, on a besoin de se pincer, de se parler à nous-mêmes, de dire, écoute, qu'est-ce que je suis en train de faire là? On vient de nommer les œuvres de la chair et la parole de Dieu nous dit que les œuvres de la chair sont là, puis les œuvres de l'esprit sont où? Sont là. Mais ils ne sont pas proches comme ça. Hey, j'arrive pas à voir si je le fais pour Dieu ou si c'est ma chair. C'est dur à confondre. La parole de Dieu dans Galates 5, ça dit qu'ils sont où les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit? Opposées. Il y en a une qui est à l'autre bout, puis les autres sont à l'autre bout. Donc, c'est facile de dire, on ne peut pas les confondre. On dit, ça, c'est les œuvres de la chair. Puis loin, loin, loin vers là, c'est les œuvres de l'esprit. Et il n'y a aucun moyen de les confondre. Donc, quand par notre attitude, on commence à être négatif, critique, il n'y a rien de bon qui se fait, là, on a besoin de se ressaisir, de dire, c'est quoi mes attitudes? C'est quoi mes actions? Puis, qu'est-ce que je décide? Seigneur, je veux toujours contribuer à l'édification de ton corps, de ton Église. L'unité vient du fait qu'on a quelque chose en commun qui est extrêmement important pour nous. Quand on voyage l'été, quand on était avec les enfants, on se promenait sur les routes du Québec pendant l'été, puis il y a beaucoup de motos, hein? Puis les enfants remarquaient que quand deux motos se rencontraient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il se faisait des petits signes. Et Michael, lui, qui avait 8-9 ans, il ouvrait la fenêtre, puis quand il voyait une moto, il faisait le signe. Mais là, tu te dis, c'est-tu spécial? Les gens qui se rencontrent en moto, ils se connaissent pas. Peut-être qu'au niveau politique, ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Socialement, ils sont pas dans la même position, mais ils ont quelque chose qu'ils aiment, puis qu'ils aiment au bout, qui est une passion pour eux. C'est quoi? La moto, qui fait que quand tu rencontres quelqu'un que lui aussi aime la même chose que toi, il a la même passion que toi, hey, tu deviens quoi? Ça, tu deviens son bon body, tu deviens son chum, si tu le vois au restaurant ou à l'arrêt là, pour aller aux toilettes. « Hey, salut, man! Hey, belle moto! Wow, hey, t'en fais souvent? En tout cas, wow, bonne journée! » Puis le high-five. Ils ont quelque chose en commun qui est important pour eux. Nous, quand on est dans l'église locale, qu'on rencontre un frère, une sœur, quand on est en voyage à l'étranger, quand on est au Costco en train de se promener, puis qu'on entend qu'il parle du Seigneur, « Hey, vous sauvez! » Déjà, on a un lien. Pourquoi? Ce qu'il y a de plus important dans notre vie, eux, ils le partagent. Déjà, il y a un lien qui se fait. Si Jésus, son salut, son amour, la vie éternelle, notre vie chrétienne ensemble, dans l'Église, si c'est ça qu'on a de plus important, on va chercher à le protéger. On va chercher à contribuer. Dans le passage, juste au verset 4 à 6, il y a 7 choses qu'on a en commun, mais j'en ai fait ressortir 4 ici. Il y a un seul corps. On appartient au corps de Christ. On a le privilège d'être l'Église de Jésus, son épouse. Il y a un seul corps, un seul esprit. On a été scellés du même esprit. Un seul Seigneur. OK? qui est le même pour tous, Jésus-Christ. Un seul Dieu et Père, on est des enfants de Dieu. Quel privilège on a d'être appelés enfants de Dieu. Vu qu'on a ces choses-là en commun, ça donne une grande valeur à l'Église. On ne se connaît pas toutes dans la vie, mais ce qu'on a de plus important, on l'a en commun. C'est pour ça qu'on veut faire du bien à notre Église locale, à notre famille. 2 Corinthiens 8, 23 dit « L'Église est la gloire de Christ. La gloire de Dieu est dans l'Église. » Et moi, j'aime être dans des petites églises, comme on est. Quand j'étais à Saint-Bruno avant, pendant des années, on était des petites églises, là, puis on n'était pas nombreux, puis il y en a qui servaient à pouponnière dans d'autres ministères, qui fait qu'on n'est pas 1000, 2000, 5000, hein? Parce que quand on va dans une église, puis il y a 2000 personnes en même temps, ou aux États-Unis, des fois c'est 8, 10 000, il y a une ambiance, hein? il y a un grondement quand tout le monde applaudit, quand tout le monde dit « Amen ». Waouh, tu as l'impression de faire partie de quelque chose de gros. Pourquoi? À cause du nombre. Mais à la naissance de Jésus, est-ce qu'il y avait quelque chose de glorieux là? C'était incroyable. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Est-ce que c'était, tout le monde était là, il y avait 2-3 000 personnes qui applaudissaient, qui disaient « Ah, waouh, le Messie, le Fils de Dieu est né. » Non, personne n'était venu, juste quelques bergers dans l'incognito, dans l'indifférence, mais la gloire de Dieu était là. Et de la même façon, la gloire de Dieu est dans toutes les églises. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants de Dieu, c'est la famille de Dieu, et Dieu se glorifie à travers cela. L'intérêt et la valeur de Christ qu'il a face à son Église nous amène à avoir le même intérêt et d'y voir la même valeur. On veut communiquer nos valeurs pour les vivre. Quelles sont nos valeurs? Et une de ces valeurs-là, c'est l'unité dans l'amour. L'Église est le lieu où Jésus veut nous faire vivre toutes les belles bénédictions qu'il a en réserve pour nous. L'Église n'est pas parfaite. Elle est constituée de moi, de chacun d'entre vous. On a des manquements. Parfois, on est irrité. Parfois, on a de la misère à s'entendre avec quelqu'un qui nous tombe un peu sur les nerfs, de dire « Ah, je... » La gloire de Dieu, c'est de nous prendre, de nous donner son amour, de toucher notre cœur, de nous donner une patience, une douceur, une bonté. L'Église de Jésus, peu importe sa grandeur, ne manque de rien. Jésus lui a donné son amour. Jésus lui a donné sa légitimité. On est là, on est des enfants de Dieu, on est un témoignage dans le voisinage. Jésus nous a donné son unité. On est un en Jésus. Et cette unité-là va durer pour l'éternité. Et on est appelé à protéger, à conserver cette unité de l'Esprit. L'unité de l'Église va nous permettre de développer une culture d'ouverture, de transparence, d'honnêteté, d'intégrité. On va être une Église remplie de compréhension, de dire, écoute, tu peux nous dire ce que tu vis parce que on va t'aimer encore plus. On ne dira pas, hey, hey, si tu agis de même, tu n'as plus de place parmi nous. Non. On fait partie de l'Église. On veut être cette Église unie qui a appris à communiquer, à parler à la bonne personne. Quand on parle à la bonne personne, on contribue à l'Église. Et quand on parle des personnes, au lieu de parler à la bonne personne, on crée des failles entre nous. Pour l'éternité, on va passer notre temps ensemble. Et moi, je considère que chaque personne qui a été dans les églises locales où j'ai été comme membre ou comme pasteur, c'est toujours un privilège que Dieu nous ait réunis, que Dieu ait mis les circonstances qui fait que pendant X années, on a été dans la même famille, où on a pu, d'une façon concrète, en se voyant à chaque semaine, en se côtoyant, en s'encourageant, en démontrant de l'amour des uns envers les autres, qu'on a pu prendre soin des uns des autres. Et on est en train de manifester les réalités du ciel. On est en train de manifester la présence de Jésus. Que l'unité soit toujours dans notre cœur. Que l'unité soit toujours dans nos pensées. L'unité de l'Église est tellement grande que je veux tout faire pour la protéger. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, merci que, avant ton arrestation, tu étais là dans le jardin de Gethsémané et que tu priais. Tu priais avec ferveur. Et une de tes prières, c'était l'unité. L'unité du corps de Christ, l'unité de l'Église pour laquelle tu allais donner ta vie. Et tu avais des standards tellement élevés, tu disais, je te prie qu'ils soient un comme toi et moi, Père, nous sommes un. Seigneur Jésus, ce qui est important pour toi est important pour nous. Tu nous as donné ce privilège de faire partie de ton Église, d'être tes enfants. Et comme membres, on veut être comme ces arbres qui sont plantés les uns à côté des autres et qui s'édifient, qui s'encouragent, qui se soutiennent les uns les autres. Seigneur Jésus, mets en nous ces dispositions de cœur, d'humilité, de douceur, de patience, d'amour. Seigneur Jésus, je te prie pour cette Église, Seigneur, ici à Davelouville. Bénis ton Église. Tu es présent, ta gloire est attachée à elle. Seigneur Jésus, on te prie que tu puisses faire grandir cette unité. Que nos relations les uns avec les autres nous édifient, nous encouragent. Seigneur, qu'on soit un arbre qui a des racines pour soutenir les autres. Qu'on soit un arbre qui protège du vent, qui exerce un ministère envers ceux que l'on côtoie. Seigneur Jésus, merci pour ton unité que tu as créée. On est un en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de protéger, conserver cette unité. Donne-nous cette grâce, Jésus. Amen. Amen. Merci.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.grâceetvérité.com.